Je me réjouis comme chaque année de cette messe de rentrée de l'enseignement catholique diocésain, avec une présence, je crois, de plus en plus nombreuse, jusqu'à ce que nous puissions enfin remplir cette cathédrale pour manifester l'importance que notre Église diocésaine attache à cette mission si importante de notre Église, que l'enseignement catholique. Vous êtes nombreux, chefs d'établissement, mes communautés éducatives dans leur ensemble, avec la direction diocésaine, les délégués de tutelle, les enseignants, les élèves présents dans cette assemblée, et je remercie la chorale des jeunes cette année de l'Immaculée Conception de Pau. L'an dernier, je crois que c'était les jeunes de La Salle Saint-Bernard. Chaque année, on alterne un établissement du Pays Basque, un établissement du Béarn, pour nous aider à prier dans la joie, la ferveur et surtout la beauté. Mais ceci, les parents, les personnels OGEC, les bénévoles, les animateurs en pastorale scolaire ô combien, et les prêtres. Et je remercie particulièrement les prêtres pour leur présence et pour cette manière, par leur présence, de manifester l'intérêt qu'ils portent à cette mission qui leur est confiée auprès de nos établissements d'enseignement catholique. Et puis nous entourons, comme chaque année, aujourd'hui, les nouveaux chefs d'établissement, ceux qui vont recevoir une première mission, ceux qui vont recevoir une nouvelle mission, ici, dans notre diocèse, d'un établissement d'enseignement catholique, et qui vont recevoir cette mission ecclésiale, bien manifestée au cours de cette messe par la remise de la lettre de mission au nom de l'évêque par les délégués de tutelle, tutelle diocésaine, et aujourd'hui, je crois, pour les tutelles congréganistes, tutelle des Ursulines. Nous savons bien, en effet, que la mission du chef d'établissement dans l'enseignement catholique est d'abord une mission pastorale, sans doute qui peut s'exprimer ainsi, l'évangélisation des jeunes qui nous sont confiés et leurs familles, et parfois même des enseignants, par l'enseignement qui reste le cœur de cible d'un établissement scolaire et qui s'inscrit bien évidemment dans une mission d'éducation intégrale qui veut honorer toutes les dimensions de la personne humaine. Ce que je voudrais souligner d'abord, et c'est le refrain du psaume que nous avons entendu, qui le souligne, la bonté du Seigneur est pour tous. Cette mission d'évangélisation, c'est-à-dire d'annonce explicite de l'Évangile, pour permettre à tous les jeunes qui nous sont confiés de rencontrer le Christ, qui est l'objet ultime de nos établissements d'enseignement catholique, est pour tous, parce que la bonté du Seigneur est pour tous. Et quand Jésus a envoyé ses disciples pour annoncer l'Évangile, il leur a dit, en sa marque, « Proclamez l'Évangile à toute la création, pas seulement à quelques auditeurs triés sur le volet, ou que nous avons décidé par nous-mêmes aptes à recevoir l'Évangile. » Et en saint Matthieu, il dit « De toutes les nations, faites des disciples. » Pas seulement, en effet, quelques élites sélectionnées. La bonté du Seigneur est pour tous, et j'entends encore résonner ces paroles du pape François lors des dernières journées mondiales de la jeunesse à Lisbonne, au cours de la cérémonie d'accueil, le jeudi, devant des centaines de milliers de jeunes du monde entier, disant « Le Christ est venu pour tous. Il nous aime tous par notre nom. Nous ne sommes pas un numéro. Nous sommes un visage. Nous sommes un cœur. Il aime tous les hommes qu'il embrasse sur la croix, et non pas quelques-uns, parce qu'il veut sauver tous les hommes. Il veut que l'Évangile atteigne tout homme, tout l'homme et tous les hommes. » Et il dit, l'Église, doit nous accueillir comme Dieu nous accueille, c'est-à-dire comme nous sommes, pas comme nous voudrions être, ou comme le monde voudrait que nous soyons selon ses critères, qui sont parfois tellement mensongers. Tels que nous sommes aimés de Dieu, à partir de cet être que nous avons reçu comme un don, même s'il est parfois difficile à accueillir, étant donné la culture dans laquelle nous sommes, étant donné les blessures qui peuvent enrayer notre cheminement de croissance en humanité. Et en même temps, nous comprenons bien, lorsque nous entendons l'Évangile, que si le Seigneur veut accueillir tous les hommes, todos, 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 comme il l'a fait marteler par ses centaines de milliers de jeunes, il ne veut pas nécessairement que nous demeurions comme nous sommes, avec le poids de nos limites, celles de nos péchés, de nos manques de conformité, avec l'image du Créateur qu'il a inscrite dans notre être depuis le commencement. Car Dieu nous veut saints. Il veut que nous grandissions en humanité et en grâce. Il veut que nous abandonnions les pratiques de l'homme ancien, comme saint Paul vient de nous le dire dans l'Épître aux Colossiens. Il veut que nous devenions des hommes nouveaux qui conforment leur vie à l'image du Créateur qu'il a inscrite en nous. C'est redoutable comme mission que d'annoncer l'Évangile pour permettre à chacun de rencontrer le Christ qui, comme le dit le Concile Vatican II, est le seul qui révèle l'homme à lui-même et qui lui manifeste la grandeur de sa dignité et de sa vocation à atteindre la pleine stature du Christ. Encore faut-il que Jésus lui soit annoncé. Je pense à ce chef d'établissement qui dit, lorsqu'il reçoit des parents au moment de l'inscription de leur enfant, « Sachez qu'ici, votre enfant entendra parler de Jésus et attendez-vous à ce que ça l'intéresse. » Et comme je me réjouis de voir que chaque année, dans nos établissements, dans vos établissements d'enseignement catholique, sont toujours plus nombreux les enfants du primaire, les collégiens, les lycéens, qui, parce que l'annonce du Christ leur a été faite de manière explicite, l'ont rencontré personnellement et demandent le baptême, demandent la confirmation, demandent la première communion. C'est magnifique de voir comment nos établissements sont vraiment des lieux, des laboratoires de la foi, des lieux de catéchuménat de ces jeunes qui adhèrent à Jésus et qui veulent s'unir à lui. Ce programme que nous avons à transmettre dans nos établissements est un programme exigeant, un peu rude, comme saint Paul nous le dit, sans complaisance. Voilà ce qui provoque la colère de Dieu contre ceux qui lui désobéissent. Voilà quelle était votre conduite autrefois, lorsque vous aussi vous viviez dans ces désordres. Mais maintenant, vous aussi, débarrassez-vous de tout cela. Colère, emportement, méchanceté, insultes, propos grossiers, sortis de votre bouche, plus de mensonges entre vous. N'en jetez plus, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que vous avez revêtu l'homme nouveau. Il est bien évident qu'il ne suffit pas de dire les choses. Encore faut-il en témoigner par l'exemple. C'est cela qui est la vocation même de l'éducateur. Mais c'est grâce au Christ et à sa grâce que nous pouvons devenir des hommes nouveaux, que nous sommes précisément devenus par la grâce du baptême. Ce que Jésus peut nous commander, de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés, il peut nous le commander parce que précisément il nous l'a déjà donné par sa grâce. Il faut des éducateurs pour aider à la croissance des jeunes, éduquer, educere, qui veut dire conduire hors ou à partir d'eux, avec une autorité authentique qui n'est pas un pouvoir écrasant, mais qui est un service qui consiste à faire grandir, autare, ce vieux verbe latin qui a donné ensuite augere, qui veut dire augmenter. Celui qui a l'autorité en éducation, c'est celui qui est appelé à faire grandir. Et dans le mot auctoritas, il y a aussi le mot auctor, c'est-à-dire auteur, source. C'est celui qui puise à la source de l'être, reçu de Dieu, avec ses inclinations naturelles au bien, au vrai et au beau, qui aide les enfants à décrypter ces inclinations qui sont parfois déviées, blessées, précisément par le péché, les mauvaises habitudes, les structures culturelles de péché, comme disait Saint Jean-Paul II, dans lesquelles nous sommes immergés, pour les aider comme des tuteurs, non pas en imposant, mais en associant précisément les jeunes à leur propre croissance, à monter toujours plus haut, à s'élever jusqu'à la stature du Christ, moyennant sa grâce, l'homme nouveau que nous sommes tous devenus par le baptême. C'est redoutable comme mission d'éducation que nous essayons d'honorer le plus possible avec nos limites, chacun à son rythme, qui sommes nous-mêmes engagés sur un chemin de croissance et qui, sans doute, n'est pas toujours confortable. Comme Jésus nous le dit dans l'Évangile, en proclamant les béatitudes, vous venez d'entendre au chapitre 6 de Saint Luc un résumé du sermon sur la montagne que l'on trouve plus déployé dans l'Évangile selon Saint Matthieu au chapitre 5, 6 et 7, qui sont, d'après Saint Augustin, la charte parfaite de la vie chrétienne, la morale de l'Évangile que Jésus est venu nous transmettre pour nous faire grandir en grâce et en humanité. Chez Saint Matthieu, il y a 8 béatitudes. Chez Saint Luc, elles sont réduites à 4, adressées directement à l'auditoire. Heureux vous, les pauvres, heureux vous qui pleurez maintenant, heureux vous qui avez faim maintenant, heureux vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent à cause de moi. Qui sont assortis chez Saint Luc, qui est pourtant l'évangile de la mansuétude, de la bonté, de la miséricorde, de 4 malédictions. Malheur pour vous les riches, malheur pour vous qui êtes repus maintenant, malheur pour vous qui riez maintenant, et quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi en effet que leur père traitait les faux prophètes. Un éducateur qui veut faire grandir en vérité ne peut pas faire dans la démagogie. Il peut susciter des résistances. Il peut susciter même des hostilités. Je pense à Saint Jean Chrysostome que nous célébrons aujourd'hui. Saint Jean Chrysostome qui est né au IVe siècle à Antioche, qui est d'abord un païen, qui étudie le droit et la rhétorique. Et puis, il se convertit entre 20 et 30 ans. Il demande le baptême. Il apprend la théologie dans cette école de théologie prestigieuse qui était celle d'Antioche en son temps. Et puis, il scrute les Écritures. Et après une vie érémitique, il est nommé patriarche de Constantinople. Et sa prédication si éloquente qui lui vaudra précisément ce nom de Chrysostome, qui veut dire « bouche d'or », va susciter beaucoup d'hostilité parce qu'il reproche aux classes aisées et à la curie impériale leur mode de vie relâché et licencieux. Alors il est déposé de sa charge, conduit à l'exil. Il reviendra grâce au soutien du pape et il sera à nouveau rejeté et il mourra d'épuisement en exil. Il est resté ferme. Il a annoncé l'Évangile. Il a fait grandir les âmes, même s'il a rencontré des obstacles. Et où puiserons-nous la force d'être des éducateurs chrétiens authentiques? Entendez bien Saint Paul aujourd'hui et laissez résonner cette parole dans vos cœurs. Si vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passé par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ, en Dieu. Un éducateur chrétien qui puise dans cette intimité avec le Christ, avec sa parole, avec sa présence dans la prière et dans les sacrements, la force et le discernement pour accompagner les jeunes, les éduquer, les faire grandir et les conduire avec la grâce de Dieu jusqu'à devenir des hommes nouveaux dont le monde a tant besoin pour retrouver l'espérance et le courage de vivre. Amen.